avec amour, fraternité, unité. Avançons sur la route de...
Radio de la paix, il est 18h. Le journal de 18h, César Yao.
Bonsoir à tous, tout de suite les titres de ce vendredi 18h. Chantal Nanaba Camara sera la première femme à la tête du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Et au-delà de la volonté politique affichée à promouvoir le genre, c'est sur son indépendance et sa responsabilité que les regards se tournent désormais. La troisième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie se tiendra du 15 mai au 15 juin dans les villes universitaires de Côte d'Ivoire. Conférences, visites guidées, ateliers pédagogiques, expositions, entre autres les articulations qui vont meubler cette édition. Enfin, dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, quatre leaders de l'opposition annoncent le report de leur marche prévue de demain samedi au 20 mai 2023. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nommé par décret présidentiel mardi dernier, Chantal Nanaba Camara sera la première femme à la tête du Conseil constitutionnel. Mais au-delà de la volonté politique affichée à promouvoir le genre, c'est sur son indépendance et sa responsabilité que les regards se tournent désormais. Pourra-t-elle revendiquer et assumer le devoir d'ingratitude eu égard précisément à sa désignation? Là-dessus, voici l'avis de Dr Séverin Kwame, sociologue et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Le gros problème de notre démocratie, qui est fortement présidentialiste, c'est ça. Un individu vous nomme et il y a à minima un devoir de reconnaissance. On l'a vu sur les anciennes nominations, il y avait une proximité relative entre les nommés et celui qui nomme. Pour la société, pour ceux qui observent, ils se demandent si cet individu qui est nommé est en capacité de se départir de la fibre de l'attachement ou du lien qu'il pourrait avoir avec celui qui nomme. Je crois que ça, c'est un gros défi qu'on a dans la démocratie en Côte d'Ivoire et sur lequel il faut travailler. Rendre les institutions indépendantes, fortes et crédibles, et les départir des liens qui pourraient les assujettir dans les formes de nomination. Donc malheureusement, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On l'a vu pendant les élections de 2010, on l'a vu après ou avant, donc ça reste quand même problématique. On a vu ici quelqu'un qui tenait cette même institution revenir se dédier. On a vu quelqu'un qui tenait cette institution venir proclamer qu'il s'était trompé. Donc quand on assume ce type de fonction, il y a quelque chose qui doit aller au-delà de ce devoir d'ingratitude. C'est le sens de l'intérêt général. Parce que je ne peux pas être dans cette position et du fait de ma décision, voir mon pays brûler. Ça pose question. Donc, pour moi, ça reste quand même un défi.
Voilà, c'était Dr Séverin Kwame, sociologue, qui sera l'invité de Regards croisés sur l'actualité, dont l'intégralité vous sera proposée demain, samedi, à partir de 9h05. Afin de disposer de moyens pour financer les activités du Registre national des personnes physiques, l'Office national de l'État civil et de l'identification, ONESI, a organisé le jeudi 11 mai, ici à Abidjan, une table ronde, voilà, à l'endroit des bailleurs de fonds. Les financements recherchés permettront à terme la prise en charge de 10 projets d'état civil, d'identification des populations et de gestion des flux migratoires. On en sait un peu plus avec Ago Kodia Christian, il est le directeur général de l'ONESI.
Notre état civil, notre système d'identification, bien que ayant déjà été assez bien structuré, n'est plus adapté à la réalité actuelle. De nombreux registres sont conservés dans des conditions difficiles et sont en état de dégradation. La perte de certains registres ne facilite pas le fonctionnement adéquat de l'état civil. Ces efforts du gouvernement nous permettent aujourd'hui, après la phase pilote dans 21 localités, de vous présenter non seulement le nouveau système entièrement informatisé et digitalisé, mais aussi annoncer le démarrage du déploiement de tous les centres d'état civil du pays qui est en cours en ce moment. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous voudrons appeler tous les partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent déjà, pour beaucoup d'entre eux, à regarder ensemble avec nous l'ensemble des 10 projets et pour pouvoir trouver avec nous et avec certains de leurs confrères les synergies nécessaires pour que l'action de l'ONESI puisse connaître une impulsion plus dynamique et que la constitution du Registre national des personnes physiques, RNPP, soit une réalité dans une échéance beaucoup plus bref que si l'ONESI ou si le gouvernement devait le faire tout seul.
Voilà, c'était Ago Kodia Christian, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. Développement local, à présent, les élus et cadres de la région de Bonkani ont eu une rencontre d'information et d'échange avec les différentes sociales, couches sociales du département de Doropo le mercredi 10 mai dernier à la Bibliothèque nationale à Abidjan Plateau. L'implantation d'une entreprise minière était au centre de cette rencontre. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
La bonne nouvelle a été annoncée par le président du conseil régional du Bunkani avant que l'initiateur de cette rencontre ne dévoile l'objet. Coulant fierté, Sansan Noufé, député de Doropo, Danoa, Calamon, Niamoué, commune et sous-préfecture.
Nous avons invité l'ensemble des personnalités pour pouvoir leur expliquer ce qui se passe sur le terrain et solliciter leur adhésion au projet et leur demander de contribuer à partir des villages où vont se créer déjà des comités villageois, ensuite un comité sous-préfectoral, préfectoral et au niveau ministériel afin que cette entreprise aurifère puisse obtenir le permis d'exploiter. Nous organisons cette rencontre afin de fédérer tout ce que nous avons comme qualité humaine autour de ce projet parce qu'il y va du bien-être de nos parents qui vivent dans les villages.
Ensuite, le président du conseil régional a appelé les jeunes à saisir les opportunités d'emploi qui vont s'offrir à eux dans le cadre de ce projet. Nien Philippe.
Pour ceux d'entre nous qui ont appris des métiers liés à l'industrie, la soudure, l'électricité, la conduite des véhicules et tout, c'est le moment de faire le retour au village. Des emplois seront créés. La priorité sera donnée aux enfants de la localité, ensuite aux enfants du département, ensuite aux enfants de la région.
À noter qu'au cours des échanges, les populations ont unanimement salué la démarche inclusive de leurs élus, non sans leur faire part de leurs préoccupations. D'autres rencontres de ce genre se tiendront régulièrement, a promis le député Sansan Noufé.
Parlons de la troisième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie qui se tiendra du 15 mai au 15 juin dans les villes universitaires de Côte d'Ivoire. Et bien, le lancement officiel de cet événement a eu lieu hier, jeudi, à Abidjan, Cocody, conférences, visites guidées, ateliers pédagogiques, expositions, sont entre autres les articulations qui vont meubler cette édition. Des précisions avec le professeur Adama Diawara. Il est le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le ministère a décidé de faire en sorte que, de temps en temps, on fasse le zoom sur le segment recherche scientifique. Et la quinzaine internationale de la science et de la technologie, la KIST, est justement un événement de nature à braquer les projecteurs sur la recherche scientifique. Et on a déjà organisé deux sessions de la KIST, en 2013 et en 2014. Et en 2023, nous organisons donc la troisième édition de la KIST. Il y a, je dirais, deux objectifs majeurs. Le premier objectif majeur, c'est de montrer les axes et les résultats de recherche des institutions d'enseignement supérieur de recherche scientifique, ce qui amène la science vers la société et la société également vers la science. Et le deuxième, c'est de contribuer au renforcement de la formation et de la recherche en STEAM, c'est-à-dire en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, des filières porteuses en termes d'emploi et donc quelque chose d'incontournable, j'allais dire, dans le programme de création de 8 millions d'emplois prôné par les chefs de l'État d'ici 2030. Et vous savez, quand on est dans un contexte où le chômage de la jeunesse est un problème majeur pour l'État, évidemment, créer jusqu'à 8 millions d'emplois d'ici 2030, c'est quelque chose d'essentiel. Et justement, tout ce qui est formation et recherche en STEAM va contribuer avec beaucoup, beaucoup d'importance dans l'employabilité des jeunes qui sortent de notre dispositif de formation.
Voilà, c'était professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il était au micro de Carlos Okwande. Célébration aujourd'hui, vendredi 12 mai 2023, de la Journée internationale des infirmiers et des infirmières. Ici en Côte d'Ivoire, les acteurs du système sanitaire et hospitalier représentant l'ensemble des infirmiers et infirmières du secteur public puis du secteur privé se sont retrouvés lors d'une cérémonie officielle pour réfléchir également sur divers aspects, notamment l'avenir de la corporation, leur place et leur rôle pour soutenir les prestations de la CME et la réforme hospitalière afin d'offrir des soins de qualité à la population. Là-dessus, on écoute les explications de Boko Kwao. Il est le porte-parole du comité des organisations professionnelles infirmières.
Les infirmiers veulent réfléchir sur leur place et le rôle qu'ils peuvent jouer dans la prise en charge des assurés et des patients et toute la population en général. Le monde entier reconnaît les acteurs ou les soldats de la santé que sont les infirmiers et infirmières. C'est un emploi qui est en pleine progression puisque nous avons un profil de carrière qui est complet maintenant. On nous recrute avec le bac, on nous forme pour 3 ans pour le diplôme d'État et on progresse à concours professionnel. Le dernier élément de l'évolution de cette profession, c'est la dotation de ce corps par un ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire dans le cadre de la coordination des syndicats du secteur santé. Les syndicats des infirmiers collaborent avec les autres syndicats de la santé pour faire avancer les discussions sur les meilleures conditions de vie et de travail et les meilleures motivations pécuniaires pour l'ensemble de ces ressources. Là-dessus, il y a des discussions internes dans le cadre du dialogue social qui se poursuivent avec le ministre de la Santé, la fonction publique et le gouvernement. Mais pour ce qui concerne la profession infirmière, nous venons de mettre les pendules à l'heure par la dotation de l'ordre. Nous attendons qu'il soit pris aussi donc la loi sur le code de déontologie pour offrir des soins de qualité à la population.
Voilà, c'était Boko Kwao, le porte-parole du comité des organisations professionnelles infirmières de Côte d'Ivoire. Plus d'une cinquantaine de responsables des directions générales du plan et de la lutte contre la pauvreté, du budget, des finances ainsi que des ministères sectoriels qui élaborent des sujets, des projets d'investissement public sont réunis du 10 au 12 mai 2023 à Yamoussoukro et cela dans le cadre d'un atelier initié par la coordination du projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF. Il s'agit pour les acteurs de la gestion des investissements publics d'échanger sur les résultats de l'étude d'élaboration d'une méthode d'évaluation des coûts récurrents des investissements publics en Côte d'Ivoire, en ligne de Yamoussoukro, Emiliao.
Dr Gaston Gohou, responsable d'un cabinet de conseil et de recherche sur les questions de développement, est l'animateur de cet atelier.
Nous sommes à l'atelier de validation du rapport provisoire de l'élaboration d'une méthodologie de calcul des charges récurrentes pour les projets d'investissement public. Et l'idée de charges récurrentes, c'est de rendre opérationnels tous les investissements publics que fait l'État dans quelques secteurs que ce soit.
Il s'agit entre autres de renforcer la compréhension du concept de charges récurrentes par les ministères sectoriels, d'impliquer les participants dans la mise en place de cette méthodologie d'estimation des charges récurrentes à l'effet d'enrichir, de finaliser et de valider le rapport provisoire en question. Dave Victorien, coordonnateur adjoint du PAGEF.
En finançant cette étude, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF voudrait soutenir l'importance du financement des charges récurrentes et l'esquisse d'une méthode consensuelle que les résultats de cette étude soumise à votre examen vous proposent. Celle-ci vient en effet compléter l'arsenal d'outils de gestion des investissements publics pour faciliter la mise en place d'un cadre institutionnel formel.
Un atelier donc important à en croire à Dr Gaston Gohou.
Généralement, on a un délai de 2 à 3 ans avant qu'un investissement soit fonctionnel. Justement parce que les charges récurrentes ne sont pas prises en charge par le budget de fonctionnement dès que l'investissement est finalisé. Et c'est la raison pour laquelle cet atelier est vraiment capital pour pouvoir évaluer ces charges récurrentes et rendre l'investissement opérationnel dès qu'on a fini de construire l'infrastructure.
Financé par la Banque africaine de développement, le projet PAGEF signé en mars 2017 prendra fin le 30 septembre 2023. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Juste à un pas de là, on reste toujours à l'intérieur du pays en partenariat avec l'UNICEF, la direction de la mutualité des œuvres sociales. Un milieu scolaire a organisé récemment des sessions de formation de 305 élèves éducateurs, de pairs, des établissements scolaires, des directions régionales, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bondiali, de Ferkessé de Gou et de Korogo. Et puis au terme thème de la réalisation des premières activités, un point de l'état d'avancement et des partages des différentes expériences et leçons apprises entre tous les acteurs de mise en œuvre a été fait le mercredi 10 mai dernier dans les locaux de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Korogo. Les Échos avec Marcel Bonny.
Certains fléaux comme le VIH, SIDA, les grossesses en cours de scolarité, l'alcool et le tabac sont à la base du faible rendement, voire des abandons constatés en milieu scolaire. Des mesures ont été prises pour y remédier. On écoute à cet effet les précisions de Gaïla Sophilbert, chargée d'études à la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, en abrégé DEMOS.
La stratégie, c'est la pééducation. Ce sont des élèves qui ont été formés, qui vont s'adresser aux élèves dans leur langage pour bien faire passer le message. Les encadreurs ont été formés pour encadrer ces enfants à mener correctement ses activités. L'établissement a identifié dans le cadre des COGES un parent qui a été aussi formé et qui à son tour va relayer l'information qu'il a reçue toujours à travers l'organisation d'une action de sensibilisation de proximité.
Au terme de toutes ces initiatives et actions, quel est le bilan qu'on pourrait établir à mi-parcours? La réponse de Inge Sansonia, coordonnatrice régionale des centres d'écoute et conseil à la DEMOS dans la région du Poro.
Nous avons atteint à mi-parcours la moitié de nos objectifs. Par rapport aux éducateurs de paix qui ont été formés aux élèves, ils ont acquis certaines expériences, ces informations-là qu'ils ne partagent pas seulement avec leur père éducateur, mais aussi en famille, avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, avec leur entourage.
Il n'en demeure pas moins des difficultés à souligner.
On va parler du volume horaire qui nous empêche souvent de mener des activités et d'être dans le temps qu'on nous demande.
Notons que les recommandations de cet atelier bilan permettront d'améliorer les initiatives et actions afin d'endiguer tous ces fléaux qui minent l'école ivoirienne. Marcel Bonny, Korogo Radio de la Paix.
Juste un mot de l'actualité internationale pour boucler ce journal. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Mapon et Deli Sesanga ont finalement décidé du report de leur manifestation qui devait se tenir demain samedi 13 mai dans la capitale Kinshasa. Jeudi déjà, lors d'une réunion avec les autorités, le gouverneur avait annoncé à l'opposition l'impossibilité d'assurer la sécurité de ce rendez-vous et lui avait proposé de décaler le rassemblement au jeudi 18 mai. Proposition d'abord refusée par les quatre parties concernées, LGD, Envol, Ensemble et ESID, qui ont finalement décidé aujourd'hui vendredi de renvoyer la marche au 20 mai 2023. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. Chantal Nanama Kamara sera la première femme à la tête du Conseil constitutionnel. Voilà, c'était Chantal Nanama Kamara, mais au-delà de la volonté politique affichée à promouvoir le genre, c'est sur son indépendance et sa responsabilité que les regards se tournent désormais. La troisième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie se tiendra du 15 mai au 15 juin dans les villes universitaires de Côte d'Ivoire. Conférences, visites guidées, ateliers pédagogiques, expositions sont entre autres les articulations qui vont meubler cette édition. Enfin, dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, quatre leaders de l'opposition annoncent le report de leur marche prévue demain samedi au 20 mai 2023. Voilà tout de suite le magazine humanitaire avec Sonia Nzian.